Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et avant de commencer cette émission, Franck Ferrand, vous vouliez dire un petit mot. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons, et c'est bien normal, les yeux rivés depuis hier sur notre midi tout sinistré. Mais c'est aujourd'hui un autre titre de l'actualité que j'aimerais mettre en exergue de cette émission. Une fois de plus, les nouvelles en provenance de Palmyre, en Syrie, sont effroyables. C'est maintenant l'Arc de Triomphe, vous avez vu, qui fait les frais de la sauvagerie du groupe État islamique. J'ai vu récemment, c'était à l'occasion de la remise des prix Historia au Petit Palais, j'ai vu les images de toutes les merveilles architecturales qui ont été saccagées, brisées, rayées de la carte. Quand on voit tous ces trésors qui n'existent déjà plus à l'heure où nous parlons, c'est stupéfiant, ça fait mal, on se sent impuissant bien entendu, et j'imagine que dans quelques siècles, ceux qui feront notre métier seront sidérés de voir ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en train de vivre.
Sans transition, Franck, à partir de mercredi et jusqu'au 29 février, les Galeries Nationales du Grand Palais confrontent 100 chefs-d'œuvre de Picasso aux productions des maîtres de l'art contemporain. Cela s'appelle Picasso-mania. De quoi vous donner des idées?
Et oui, ça, le titre est même Picasso.mania. Il y a quelque chose de très 2.0 dans cette exposition. Et pour nous parler de l'homme Picasso, et notamment du vieil homme, celui de l'après-guerre, j'ai convié Yo-Yo Mac, petite fille des créateurs de la Fondation Mac à Saint-Paul-de-Vence. Elle a connu le maître, elle nous livrera ses souvenirs de tous les artistes de cette époque.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Fanny sur les origines de la guitare.
Eh bien, décidément, nous sommes très espagnol en ce début de semaine. Eh bien, allons-y, vamos!
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans une interview qui date de 1959, un journaliste demande à Pablo Picasso « Est-ce que vous continuerez longtemps à peindre ?» Et voilà ce que répond l'artiste « Oh oui, parce que pour moi, peindre, c'est une manie. » Vous comprenez le titre de cette exposition, Picasso-mania, c'est non seulement une manie de peindre pour Picasso, c'est peut-être une manie de faire référence à Picasso pour un grand nombre d'autres artistes, ce que nous allons voir tout à l'heure. Après la Seconde Guerre mondiale, et alors que Picasso a déjà plus de 60 ans maintenant, il a énormément d'argent et surtout une reconnaissance planétaire. Le peintre, qui est retiré pour la plupart du temps dans le sud de la France, continue plus que jamais à travailler, mélangeant les nouvelles expériences tout en revisitant les grands maîtres de la peinture. Dans ces années, Picasso reste également un homme à femme, évidemment, un être aux deux visages, si l'on veut, parce que vous avez d'un côté l'artiste qui montre à tous ceux qui viennent le photographier ou qui viennent faire des articles sur lui. Ils sont nombreux, je pense notamment à Robert Capa qui vient le filmer. Il montre l'image d'un père sensible et tendre avec ses enfants, avec sa compagne, etc. Évidemment, lorsqu'on écoute certains membres de sa famille, ils ont plutôt tendance à dépeindre au quotidien un homme froid et inaccessible. C'est en 1948, alors qu'il a 66 ans, que Pablo Picasso est venu s'installer à Valoris sur la Côte d'Azur. Il vit dans une petite villa sur les hauteurs de la ville. La villa s'appelle la Galloise. Depuis la fin de la guerre, on peut dire que Picasso ne passe quasiment plus de temps ou très peu de temps à Paris. Il préfère, n'oubliez pas qu'il est natif de Malaga après tout, il préfère le soleil de la Côte d'Azur où vivent déjà de nombreux artistes, comme Henri Matisse, bien entendu. Picasso d'ailleurs a vécu à Antibes avant de s'installer à Valoris. Le choix de cette ville est lié à un art qu'il vient de découvrir là 2 ans plus tôt, et c'est la céramique. Quand je dis qu'il l'a découvert, il en a en tout cas redécouvert toute la puissance et tout le potentiel. Picasso a été fasciné par la visite qu'il a faite lors à une exposition de potiers, et il a décidé de se tourner vers le premier art du feu. Il va réaliser très vite des plats, des vases, des pichets, des figurines, des assiettes. Il peint tout ça de ses thèmes favoris, les femmes, les animaux, la corrida, les figures mythologiques, des natures mortes. Il va réaliser pas moins de 4000 de ces céramiques. Il faut vous dire qu'à cette époque, Pablo Picasso vit avec une femme qui est de 40 ans plus jeune que lui, Françoise Gillot. Il a rencontré cette jeune artiste dans un restaurant parisien. On était pendant l'occupation, 1943. Picasso, à l'époque, vivait encore avec la photographe et peintre espagnole Dora Maar. Et il est toujours marié, d'ailleurs, à l'époque, avec Olga Koklova. Voilà ce que nous dit, ou plutôt ce que dit Françoise Gillot dans une interview qu'elle avait donnée à Paris Match en 2012. Je la cite. « Jusqu'en 1946, nous nous voyions deux fois par mois, pas plus, deux fois par mois. Il était envahissant et dominateur, dit-elle. Je tenais à la liberté que je venais de conquérir en quittant mes parents pour habiter chez ma grand-mère qui me laissait faire ce que je voulais. Je lui résistais. En 1945, j'ai cessé de le voir pendant plusieurs mois. Du coup, il est allé chez ma grand-mère, qu'il détestait, c'était réciproque, avec des fleurs. Et un soir de mai 46, je suis resté chez lui. » Ils vont avoir deux enfants, vous savez, Claude et Paloma. Mais la relation, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas facile tous les jours. Picasso a mauvais caractère. Le matin, dit Françoise Gillot, il se levait de très mauvaise humeur en trouvant que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Picasso avait un côté dépressif, un sens inné du drame et de la mort. Il fallait lui remonter le moral. Puis, à 11h30, il recevait du monde ce qu'il détendait. Picasso a un caractère tellement extraordinaire qu'il a tendance à envahir, à bouffer l'espace ou l'atmosphère, si je puis dire, de tous les endroits où il se trouve. Il pouvait être très généreux, dit Françoise Gillot, mais souvent il disait « Je ne suis cruel qu'avec les gens que j'aime ». Et elle ajoute avec un certain humour « J'ai dû être très aimé ». Il était aussi d'une cruauté incroyable, dit-elle, avec son secrétaire Raimé, qui pourtant l'adorait, et quand il était gentil, il valait mieux se méfier aussi. Avec lui, il fallait toujours être de bonne humeur. Alors, il faut imaginer que à cette époque, Picasso est un maître, encore une fois, internationalement connu. Il est d'une richesse folle, mais il ne fait pas attention à sa fortune. Il a pour habitude, dit-on, de glisser des liasses de billets dans un tiroir et il lui arrive de les oublier, au point même que parfois la monnaie change, vous savez, les billets n'ont plus cours quand il les retrouve. Si un visiteur veut une toile et que Picasso accepte de la lui vendre, ce qui n'est pas du tout évident, il ne se mêle pas du tout de la transaction et demande à l'acquéreur de s'adresser au marchand. L'existence qu'il mène lui-même est assez simple. On voit tout ça, enfin on aperçoit tout cela dans l'extraordinaire film d'Henri-Georges Clouzot, dont nous aurons peut-être l'occasion de dire un mot tout à l'heure. Il mange peu, il ne boit que de l'eau, en revanche il fume énormément, bien entendu. Et plus le temps passera, moins on le verra s'occuper à toutes sortes de sorties, notamment vous savez qu'il a été très assidu au corrida. Mais plus le temps passe et plus il est dans son atelier, car Picasso travaille beaucoup. Outre la céramique, il fait de la sculpture, des dessins comme la guerre et la paix pour la chapelle de Valoris, des lithographies, notamment sur le thème du père Goriot de Balzac par exemple, des gravures, toutes sortes de gravures. Il revisite aussi les grands maîtres. Le massacre de Corée par exemple est directement inspiré du tableau de Goya, le 13 des maillots. Quant aux femmes d'Alger, elles rappellent les autres femmes d'Alger, celles de Delacroix. Mais dans ces années Valoris, si je puis dire, Picasso est également un artiste engagé, qui est proche du Parti communiste. En 1949, la colombe de la paix est choisie pour l'affiche du Congrès de la paix à Paris. Il n'en est pas peu fier. On va le voir d'ailleurs au Congrès des intellectuels pour la paix à Wrocław, en Pologne, avec le poète Paul Éluard. Il intervient à ce moment-là pour demander la liberté du poète chilien Pablo Neruda, qui est en exil à cette époque. Picasso est reconnu donc non seulement comme un artiste, mais d'une certaine manière comme un maître à penser. Je vous parle là des années 1950. Je ne suis pas persuadé que ça ait tellement changé 60 et quelques années plus tard.
Il était un homme oiseau qui cueillit le monde rond, l'ouvrit de ses doigts pipeaux, l'enfouit dans son œil citron. Puis déshabilla les dieux, les fit danser dans les bois, les croqua de ses dents bleues, les enivra de hautbois. Picasso, colombe ou laurier, Figuernica, la mort aux cordes, pour que dans un monde sans bordes, la nuit ne vienne plus jamais. La nuit ne vienne plus jamais.
Jean Ferrat, c'était en 1972 avec Picasso Colombe. Le peintre Picasso est à l'honneur cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1 avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Fondateur du cubisme, compagnon d'art du surréalisme, vous l'avez compris, Picasso est au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1, à l'occasion d'une exposition Picasso Mania, une exposition Europe 1, Franck.
Et fondateur surtout, Anissa, d'une sorte de style Picasso qui ne peut être réduit à rien, c'est ce qui est assez extraordinaire. Si lui-même s'est infiniment inspiré d'une quantité d'artistes, et si les grands artistes d'aujourd'hui ont tendance à lui faire presque systématiquement référence, on peut dire que Picasso est un univers à lui tout seul et qu'il est très difficile de le ranger, en dehors d'une période cubiste, certes, de le ranger dans un courant très, très particulier. Nous aurons l'occasion de revoir tout ça, d'entrer dans le détail tout à l'heure avec Yo-Yo Ma. Voilà ce que nous dit Françoise Gillot, toujours dans sa fameuse interview. Elle dit « Quand Picasso a passé le cap des 70 ans, ma jeunesse lui est devenue insupportable. » Elle parle de sa jeunesse à elle, bien entendu. « Il était agressif et désagréable, dit-elle. Moi aussi, j'avais changé. Je n'étais plus la discrète, conciliante que j'étais autrefois. » Il y a du changement, évidemment, dans la vie privé à ce moment-là de Picasso. En 54, le 3 juin 54, puisque l'œuvre est datée, il réalise Jacqueline aux mains croisées. Et oui, il vient de rencontrer une autre femme qui s'appelle Jacqueline Roque. Elle travaille à la poterie Madura de Valoris, tout près de l'atelier où Picasso réalise ses céramiques. Elle est divorcée, elle a une fille, ils se connaissent depuis peu de temps. Ils ont 45 ans d'écart maintenant. En 1955, Pablo Picasso va acheter une villa Belle Époque, la célèbre villa La Californie à Cannes. Il est accompagné de sa nouvelle muse, donc Jacqueline Roque, qui a un visage à l'antique, c'est ce visage très dessiné, posé sur un cou très long, avec un grand nez bien droit et les sourcils noirs. Il va passer désormais son temps à la Californie, qui est une immense maison avec une vue magnifique sur la baie de Cannes, évidemment. Lorsqu'on parle de ça aujourd'hui, ça n'est pas sans résonance, puisque nous y sommes par la pensée dans cette baie de Cannes. Nous avons, en préparant cette émission, retrouvé un article passionnant de Maurice Reims qui raconte ses souvenirs avec Picasso, justement. Ceux qui ont eu le privilège de franchir le seuil de la Californie, écrivait Maître Reims, pouvaient éprouver l'impression de pénétrer au sein de la caverne d'Ali Baba, qui aurait converti son logis en garde-meuble de ses propres œuvres. De l'ordre, pas question. Du ménage, encore aurait-il fallu une femme en charge et des chiffons. Pourtant, tout cela reposait comme miraculeusement protégé simplement par une fine pellicule de poussière. On est dans l'antre, si je puis dire, de Picasso, dont les productions sont toujours aussi nombreuses. Ce que Picasso chérissait le plus, écrit Maurice Reims, étaient ses propres œuvres, ses enfants, ceux-là. Il ne pouvait être question de les engranger dans quelques demeures étrangères. La place des bambins doit être au foyer. Il en vendait, bien sûr, mais généralement à contre-cœur. Ses œuvres, il les tenait réparties dans des chambres dont il possédait la clé perpétuellement accrochée à un trousseau qui jamais ne le quittait. On peut dire que, par ailleurs, à côté de ces œuvres qui, vous l'aurez compris, constituent l'essentiel du décor au sein duquel travaille Picasso, il y a les œuvres des autres, car il est aussi un grand collectionneur avec des toiles importantes du douanier Rousseau, de Renoir, de Corot, de Cézanne, des frères Lenain, de Gauguin. Comme les frères Lenain, j'ai envie de dire chercher l'intrus dans la liste. Comme à Valoris, Picasso continue de reprendre les œuvres des grands maîtres. C'est en 57 qu'il va produire sa série des Ménines, vous savez, trois siècles exactement après la réalisation du chef-d'œuvre par Velázquez. Il va aussi reprendre un petit peu plus tard le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Picasso continue de répondre à quelques très grandes commandes. Je pense à la commande de la décoration murale pour le bâtiment de l'UNESCO à Paris, vous savez, la célèbre chute d'Icare. Il fait aussi des sculptures où il utilise de la terre, des morceaux de bois, de la tôle récupérée. Et dans le même temps, on peut dire que Picasso s'abstrait un peu du monde. C'est le réalisateur Henri-Georges Clouzot qui va tourner son fameux documentaire « Le mystère Picasso » présenté au Festival de Cannes 1956. Et d'ailleurs, à Cannes, en 56, on a vu Picasso se présenter tout sourire en costume, nœud papillon et chapeau melon. Picasso reçoit énormément de sollicitations. Il répond très peu, bien entendu. Et il reçoit, dites-vous, une centaine de lettres par jour. Ça encore, c'est Maurice Reims qui le raconte. Le rituel est toujours le même, nous dit l'observateur. Il prend l'enveloppe, il retourne la lettre et pour préserver l'enveloppe, il en cisaille soigneusement le bord. Et puis, Picasso a l'habitude de tracer sur chaque enveloppe une sorte de petite paire de lunettes. Comme ça, il esquisse une paire de lunettes. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a lu la lettre, mais en tout cas, lui sait qu'il l'a eu, qu'il l'a tenu en main, d'une certaine manière. Et quand ce courrier qui s'accumule sur ses tables menace de s'effondrer, eh bien, Picasso met le tout dans une sorte de liasse. Il lit l'ensemble à l'aide d'un brin de ficelle avec un petit nœud dont il a le secret. Chaque jour, des témoignages du monde entier arrivaient, nous dit Maurice Reims, peintures, sculptures, dessins exécutés par des amateurs qui, pour la plupart, prétendaient avoir saisi la manière de faire du peintre. Que pouvait faire Picasso devant tout cela? Rire, sourire, de toute manière, à toutes ses lettres, à tous ses envois, il ne répondait jamais. On arrive maintenant, on franchit, si je puis dire, les années 1960. En 61, Picasso va sur ses 80 ans. Sa vie sentimentale semble s'être un peu stabilisée. Il se marie avec Jacqueline Roque, en toute intimité, à Valoris. Il n'en reste pas moins assez distant avec sa famille, si l'on en croit notamment sa petite-fille, Marina Picasso, qui dit « C'était un portail qui ne s'ouvrait pas vite et pas souvent, donc il fallait de longues heures d'attente avant de voir mon grand-père ». Au même moment, on est en train de construire en face de la Californie une espèce de barre d'immeubles. Quand on sait que Picasso avait tendance à se promener tranquillement torse nu dans son jardin, etc., l'idée de devenir éventuellement la cible des regards lui est insupportable. Il décide de quitter sa villa et Cannes. Il abandonne tout sur place, les toiles, les gravures, une presse à imprimer, tout ça reste dans la maison. Et avec sa femme Jacqueline, le voilà à l'été 1961 qui part pour Mougins.
Le peintre Pablo Picasso qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir et poser toutes vos questions à Franck Ferrand sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Du prêteur.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
À partir de mercredi débute l'exposition Picasso Mania, une exposition en partenariat avec Europe 1. On parle donc de Pablo Picasso cet après-midi, un peintre qui a une nouvelle maison, Mougins, dans les Alpes-Maritimes, Franck.
Exactement. Et ce qui m'intéresse par rapport à cette exposition Picasso Mania, c'est de voir à quel point Picasso, plus le temps passe, s'intéresse au maître du passé. Il va faire son fameux enlèvement des Sabines d'après David, vous savez. On le voit dessiner des figures de mousquetaires qui s'inspirent des gentilshommes du siècle d'or à la manière de Velázquez, bien entendu. Je vous ai parlé des toiles inspirées de l'Olympia de Manet. Il va aussi réaliser pas mal de dessins sur le thème du bain turc d'Ingres. Il n'hésite même pas parfois à détourner l'esprit des maîtres. Je pense à ce tableau qu'il fait en référence au portrait de Hendrik Jechtoffels de Rembrandt et qui s'appelle La Pisseuse, toile provocante s'il en est. Mais le modèle essentiel de Picasso pendant toutes ces années, c'est sa femme, c'est Jacqueline. Pour la seule année 1962, il réalise quelque 70 portraits de Jacqueline dans différentes techniques, peinture, dessin, des carreaux de céramique aussi bien sûr, les gravures, enfin, etc. Dans les premiers jours de l'année 63, il fait 13 variations sur des portraits de Jacqueline. Ses œuvres abordent aussi, évidemment, des sujets érotiques, dont l'un, le baiser, est qualifié par un critique, je cite, d'exhibitionnisme libidineux de vieillard. Picasso a plus de 80 ans à l'époque. Mais cela dit, ça ne l'empêche pas de continuer. Peut-être, non seulement ça ne l'empêche pas, mais on a l'impression qu'il est pris d'une frénésie de création. Encore plus, peut-être, qu'à certaines autres périodes de sa carrière. Il fait de la sculpture, notamment une tête en acier de 20 mètres de haut qui en 1967 sera inaugurée au Civic Art Center de Chicago. La période est marquée par une grande reconnaissance du maître. Il faut le dire, il n'y a pas que les gens de Chicago qui l'ont reconnu. En 66 se tient la rétrospective Hommage à Picasso, à la fois au Grand et au Petit Palais, rétrospective inaugurée par le ministre des Affaires culturelles de l'époque, André Malraux bien sûr, et qui attire jusqu'à 900 000 visiteurs. Et 4 ans plus tard, au Festival d'Avignon, une exposition Picasso est présentée au Palais des Papes qui regroupe un an de création, 165 peintures, 45 dessins. Cette exposition va déclencher un véritable scandale parce que on peut dire que non seulement la virulence de la couleur, les formats absolument géants, mais aussi l'érotisme des sujets, tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire, heurte une partie du public. En 1971, la Grande Galerie du Louvre va accueillir des toiles de Picasso. Pour l'occasion, le musée du Louvre sera gratuit pendant 10 jours. Et il n'y a pas qu'en France que Picasso est reconnu, vous l'aurez compris. Aux États-Unis, n'en parlons pas. En Espagne aussi, Picasso, un musée Picasso a été créé à Barcelone en 1963. Il y a donc cette espèce d'intensité de la création de Picasso au tournant des années 70. Dites-vous qu'entre le 5 janvier 69 et le 2 février 70, il réalise en une année 165 toiles et dans les deux ans qui suivent, pas moins de 201 peintures. C'est en 72 que Picasso réalise un autoportrait troublant qui ressemble à une sorte de masque tragique, une sorte de crâne aux yeux exorbités. On peut dire que finalement Picasso là se livre peut-être plus qu'il ne l'a fait jusqu'alors. Quoique, après tout, qu'est-ce que l'œuvre de Picasso sinon une sorte d'introspection permanente, de projection introspective permanente. Toujours est-il que l'on a le sentiment qu'il voit peu à peu la mort arriver. Cette mort, elle le prendra à 11h40 du matin le dimanche 8 avril 1973. Ce jour-là, le maître est emporté par une embolie pulmonaire. Il avait 91 ans. Bonjour Yo-Yo Ma, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous avez rencontré Picasso, nous allons parler de lui, nous allons parler de tous les artistes qui ont fait rayonner l'art de cette époque.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
À partir de mercredi et jusqu'au 29 février débute l'exposition Picasso Mania, une exposition en partenariat avec Europe 1. Vous recevez aujourd'hui Franck Yo-Yo Ma, petite fille des créateurs de la Fondation Ma à Saint-Paul-de-Vence.
Et oui, évidemment, le moins qu'on puisse dire est que vous avez été bien placé, Yo-Yo Ma, pour voir tout ça et pour vivre cette espèce de bouillonnement extraordinaire. Alors la mort de Picasso, c'était, je l'ai dit, le 8 avril 1973, a été considérée comme un véritable événement mondial, hein, il faut le dire. Tous les grands journaux ont titré dessus. Je donne le titre du journal Le Monde, tout simplement, le grand Pan. Pan comme le Dionysie, enfin comme le dieu grec, hein, P-A-N, le grand Pan est mort. Et on pouvait lire dans Le Point, Pablo Picasso défiait le temps, il n'appartenait à aucune époque, les ayant toutes dominées ou devancées. Alors il est enterré un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, dans le parc du château de Vauvenargues, dont il a fait acquisition en face de la montagne Sainte-Victoire, on est dans les Bouches du Rhône. La ville de Mougins a refusé les funérailles. Tout ça s'est fait dans un contexte un peu terrible, et alors, disons-le, dans une ambiance familiale délétère.
Oui, parce que ces grands monstres sacrés, et particulièrement Picasso, a quand même baladé sa vie entre plusieurs femmes. Il a eu un seul enfant dans le mariage, c'était celui Polo qui est mort. Donc ça a été, tout ça a été très dramatique, et on peut comprendre qu'il y ait des grandes tensions. Des tensions parce que vivre à côté d'un homme aussi fourmillant d'idées toute la journée, c'est effectivement très difficile.
Avec en plus l'absence d'un testament qui aurait réglé une succession dont on pouvait deviner qu'elle serait l'une des plus importantes du XXe siècle en fait.
Oui, mais c'était impossible pour Picasso de faire un testament. La raison aussi pour laquelle il était frénétique à la fin de sa vie et de création, c'est parce qu'il avait peur de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'il avait envie de faire. Donc la mort pour lui était une chose absolument impossible. Un artiste est dans l'immortalité, ses œuvres qu'il laisse. C'est pour ça que j'aime pas toujours quand on dit que les œuvres sont les enfants des artistes, parce que les enfants, il y a une notion quand même de vie et de mort, alors que les œuvres sont définitivement immortelles.
Et dans le cas de Picasso, je crois qu'on peut dire que chaque année le prouve. Je parlais tout à l'heure de cette nuit Picasso que nous avions organisée avec Europe 1 en 2008, au moment de la grande exposition du Grand Palais, et nous étions restés de 10h du soir à 5h du matin à l'antenne. C'était une sorte de grand marathon Picasso, et j'avais pu mesurer avec la grande quantité de témoignages de tous ces gens qui avaient défilé au micro, j'avais pu mesurer à quel point, pour beaucoup encore aujourd'hui, Picasso est plus que vivant. Hein. Il est une source d'inspiration. C'est ce qu'on voit dans l'exposition d'ailleurs, Yo-Yo Ma.
Oui, j'ai eu la chance de la voir hier avant l'ouverture. C'est absolument bouleversant. Je ne m'attendais pas à ça. D'abord, je ne m'attendais pas à ce que Picasso soit aussi contemporain au milieu de ces artistes contemporains. On ne peut presque pas Il y avait eu cette grande exposition Picasso et ses maîtres, où on voyait évidemment toutes les influences de Picasso.
C'est ça. Ça, c'était, j'ai envie de dire, ça c'était plus normal et plus classique. C'est-à-dire que c'était toutes les influences de Picasso et toutes ses citations.
Oui, et aussi, alors que là, je m'attendais un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que Picasso soit la référence et puis les artistes, les créateurs postérieurs. Or, il est en perpétuel. Je dis pas contradiction ni lutte avec les artistes contemporains, mais ces œuvres se défendent sacrément. Il y a pas de, on peut même pas les dater au sens, bien sûr qu'on les connaît, donc notre imaginaire, notre culture arrive à les resituer dans une époque. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elles sont extraordinairement contemporaines. Elles nous obligent à la réflexion, à l'amusement parfois, et vraiment de voir aussi bien des Jasper Johns, des Claes Oldenburg, ou Barcello, ou Jan Peiming, inspirés par Picasso, il les nourrit tous les jours.
Ouais, il a été en quelque sorte hors du temps, lui. Il a réussi à en sortir. C'est pour ça que je me méfiais tout à l'heure de cette volonté de l'inscrire dans une école, d'une certaine manière. Il y a avant, il y a après Picasso, mais lui-même ne s'inscrit pas vraiment dans une école.
Picasso, c'est une individualité, mais j'aurais même tendance à dire que chacune de ses œuvres est une individualité. Là, ce qu'il y a de formidable dans l'accrochage qui est proposé au Grand Palais, ont été reconstitués des grands murs où sont accumulées des peintures. C'est un accrochage qu'on n'a plus l'habitude de voir. Moi, j'adore ça parce que on est comme dans notre esprit. Dans notre esprit, on ne classe pas les choses ni chronologiquement, ni, on va dire, bien organisé. Là, c'est un amoncellement de peintures. Et on se rend compte que même si on peut considérer que certaines, isolément, auraient été considérées comme des peintures peut-être plus faibles, eh bien elles sont indispensables. Chaque acte créatif de Picasso est indispensable. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette exposition hier soir. Il y a également des gravures érotiques, ou moi qui suis passionnée des estampes japonaises, où d'un seul coup, voilà, il fait le lien avec une autre culture. Et c'est ça Picasso, c'est qu'il a embrasser toutes ces cultures.
C'est 8 décennies de création. On pouvait lire dans Le Point le lendemain justement de sa mort, il y eut Picasso néoclassique, Picasso cubiste, Picasso surréaliste, Picasso moderniste, Picasso céramiste, Picasso lithographe et sculpteur et superbe dessinateur, effervescent, exubérant, sévère et revêche, amant fidèle et infidèle, homme d'affaires rusé, en quête de publicité, Picasso incandescent espagnol, Picasso le blagueur et l'amateur de mascarade, Picasso le généreux, Picasso harpagon, et même Picasso le dramaturge, disait le journaliste de l'époque, pour essayer d'évoquer la dimension protéiforme de ce maître. Alors, j'ai sous les yeux votre ouvrage, Yo-Yo Ma, que j'ai lu pendant l'été. Il m'a accompagné pendant l'été, votre ouvrage. C'est un vrai bonheur parce que c'est toute une période, une époque, une atmosphère que vous ressuscitez. Et sur la couverture du livre, ça s'appelle « La saga Mac » par Yo-Yo Ma, chez Robert Laffont. Sur la couverture, il y a une photographie où l'on voit une petite fille qui aurait pu être une petite fille de Velázquez, du reste, qui se trouve au pied de deux messieurs. Il y en a un qu'on reconnaît avec son mégot au bec, c'est bien sûr Jacques Prévert. Et puis l'autre qui porte un gilet sur la manche, c'est Pablo Picasso. Et Pablo Picasso a l'air de vous observer, parce que c'est vous la petite fille bien entendu, et on a même l'impression qu'il s'amuse avec vous. Que se passait-il et quand était-ce ?
Alors je me souviens très très bien de ce moment, j'étais toute petite, j'avais à peine 5 ans, mais je voulais déjà à l'époque être là où ça bougeait, où les gens parlaient, ou quitte à ce que je...
Être avec les grands, dites-vous, hein.
Oui, c'est ça, être avec les adultes, être...
Les adultes, oui.
Vraiment, bon là en l'occurrence, c'est deux grands en
oui,
plus, un
en
grand
plus.
Poète et un grand artiste, des grands créateurs. J'aimais le bouillonnement. Et j'insistais pour aller dans ce que je ne savais pas être des vernissages, mais en tout cas, là où ça bougeait. Alors, cette photo a été prise à l'occasion d'une inauguration d'une exposition de Jacques Prévert, de collage de Jacques Prévert. Alors Prévert, évidemment, c'était plus que mon tonton pour moi. C'est celui d'abord qui m'a donné mon prénom. Et il était tous les jours à la maison. On l'appelait l'ogre parce qu'il avalait son mégot, il recrachait de la fumée de cigarette. Tout ça, je le raconte avec amusement dans mon livre. Et j'avais sous les yeux un collage de Prévert où tous les personnages avaient la tête à l'envers, sauf un. Et je ne comprenais pas pourquoi un avait la tête à l'endroit. J'avais tellement l'habitude, étant élevée entre Malraux, Miro, Giacometti, Prévert, Calder et tous les autres, et Monsieur Braque, bien sûr, tous les jeudis, puisque Monsieur Braque nous gardait chez lui tous les jeudis après-midi.
Ça s'invente pas.
J'avais l'habitude de, quand on grandit avec un tableau de Chagall sous les yeux, voir une chèvre bleue qui vole avec un marié qui joue du violon, c'est tout à fait normal. La normalité, c'était celle-là, la mienne. Alors.
Et ça va bien avec l'esprit de l'enfant, en plus, ça tombe bien.
Oui, c'est vraiment, et c'est ce que j'ai essayé de retrouver en écrivant, de retrouver cet amusement que j'avais enfant. Et bien sûr, je râle, c'était déjà mon caractère, je râle auprès de Prévert en lui disant « Mais pourquoi tu n'as pas mis l'autre tête à l'envers ?» Et c'est ça qui a amusé Picasso, parce que d'abord, j'interviens, je ne me rends pas compte qui sont ces grands personnages. Donc j'interviens, je râle et je dis ce que je pense, et ça a évidemment amusé Picasso.
Quel genre de bonhomme était Picasso? Parce qu'on en a, lorsqu'on ne le voit qu'à travers les films ou des photographies, on en a l'image d'une sorte d'oracle quasiment, un personnage très grave et très spécial. Comment était-il dans la vie, si je puis dire?
Alors moi je ne l'ai pas connu dans la vie, j'ai surtout connu ce que les autres me disaient de lui, Miro particulièrement, il était quand même très très proche de Miro, et Miro est celui qui m'a sans doute ouvert le regard, l'esprit et peut-être même l'âme. Miro avait un très grand respect pour Picasso et en même temps une sorte de compétition entre eux. Ils étaient tous les deux bien sûr espagnols, donc ils avaient à imposer leur style. Mon grand-père me parlait beaucoup de Picasso et il me disait qu'il était absolument impossible pour lui d'exposer Picasso. Il ne l'a exposé qu'une seule fois dans sa galerie parce qu'il avait choisi Braque et qu'il y avait là pour le coup une incompatibilité entre les deux.
C'est inouï ce que vous racontez dans ce livre. Vous avez fréquenté, connu, vu tous ces gens à travers aussi le regard de votre grand-père. On y vient dans un instant, Yo-Yo Ma.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Recevez Yo-Yo Mac, petite fille des créateurs de la Fondation Mac à Saint-Paul-de-Vence. On parle de Picasso qui a vécu à Mougins, à Cannes et à Valoris. Et nous avons une pensée toute particulière, toute l'équipe d'Europe 1 est au cœur de l'histoire, pour les auditeurs des Alpes-Maritimes cet après-midi.
Évidemment. C'est un endroit tout à fait extraordinaire que Saint-Paul-de-Vence, aujourd'hui encore bien sûr, Yo-Yo Mac. Mais le Saint-Paul-de-Vence que vous décrivez, vous, ressemble quasiment à un conte de fées. On a l'impression qu'il y a un grand artiste à tous les coins de rue.
Oui, parce que ce lieu a toujours attiré les artistes, Nice, Cannes, bien sûr Matisse, Bonnard, mais Braque un petit peu plus loin, Collioure ou de Rhin, mais également Chagall qui est venu construire sa maison juste à côté de celle de mes grands-parents à Saint-Paul-de-Vence. Prévert habite là aussi. Il y a un lieu incontournable aussi qui est la Colombe d'Or,
cette auberge voilà, plutôt, oui.
Cette auberge extraordinaire où viennent se réfugier les artistes, aussi bien stars de cinéma que Clouseau, justement. Clouseau habite là à l'année.
Avec de vraies œuvres au mur, il faut le dire.
Hein. Ah oui, avec de vraies œuvres au mur. Paul Roux, qui a créé la Colombe d'Or, était un grand collectionneur et l'ami, grand ami des artistes, bien sûr.
Votre grand-père, est-ce qu'on peut dire, vous n'allez pas me contredire si je dis que c'était un génie. Il avait su voir avant bien d'autres le talent et le génie des grands artistes de sa génération. Quel regard portait-il sur Picasso, justement?
Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire avec papy, c'était sa liberté. Peut-être était-elle due au fait qu'il était orphelin de la Première Guerre mondiale. Donc finalement, il n'avait pas à porter un passé familial. Et donc, il s'est autorisé tout. Il a eu la chance de rencontrer ma grand-mère, qui était une canoise truculente et vraiment rigolote et amicale formidablement avec les artistes. Picasso, je peux pas dire qu'il s'en méfiait, mais c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, je soupçonnais mon grand-père de trouver Picasso à sa hauteur. C'est-à-dire que papy, c'était une merveilleuse humilité quand il présentait les œuvres des artistes. Il s'effaçait le soir de l'inauguration de la Fondation en 64, alors que Malraux va inaugurer. Il s'écarte, il nous laisse, nous, ses trois petites filles, devant. J'ai 5 ans, Florence à 7 ans, c'est elle qui va remettre les clés à André Malraux. Il n'est pas là pour recevoir les lauriers de la gloire, mais il a besoin de joutes intellectuelles. Et Picasso était de ce niveau-là, mais au même titre que Giacometti. Giacometti était quelqu'un de très très difficile. Papy lui a consacré un espace extraordinaire à la Fondation qui est devenue la cour Giacometti avec ces fameux hommes qui marchent et les femmes de Venise, les grandes sculptures emblématiques de Giacometti. Papi avait besoin d'être finalement confronté à des gens qui lui résistaient. Et je crois qu'il avait une tendresse particulière pour Picasso parce que Picasso, justement, avait cette force de résistance.
Ils avaient des amis en commun. Je pense à Reverdy, d'abord peut-être, le poète. Hein.
Reverdy est un personnage indispensable dans ma famille. Le lien avec Braque, il est le témoin de mariage de ma maman également. Et oui, Reverdy, mais aussi bien sûr Prévert, Clouzot qui...
Et Chagall, bien
Chagall,
sûr.
Chagall était... Il y a des photos merveilleuses de complicité entre Chagall, mais également Cocteau qu'on voit un petit peu loin de la Galerie Mag, mais c'est quelqu'un qui quand même est resté très, très proche de mon grand-père. André Breton, au départ, bien sûr, quand André Breton fait l'exposition en 47 chez mon grand-père, la grande exposition sur le surréalisme, bien sûr qu'il est aussi, il est impliqué avec tous ces artistes surréalistes, dont Picasso, tous les poètes, voilà, ça c'est la communauté autour de mon grand-père.
Votre grand-père n'exposait pas les œuvres de Picasso, il n'y avait pas d'exposition Picasso à la galerie, si je
non,
puis dire.
Non, non, parce que Picasso était chez Canveller, et papy disait de Picasso que de toute façon il était tellement... c'était un ogre qui mangeait tout ce qui l'entourait, et donc papy qui lui voulait défendre beaucoup de formes d'expression différentes ne pouvaient pas l'avoir. Et en plus, il avait choisi Braque.
Et l'entourage du peintre et de l'artiste, devrais-je dire, parce qu'il n'est pas seulement peintre, surtout dans les dernières années de sa vie. Vous avez maintenu des relations avec les enfants, petits-enfants de Picasso ?
Moi, avec les petits-enfants, et hier soir justement à l'inauguration de l'exposition, bien sûr, il y avait Olivier Picasso qui était là, qui a fait un livre remarquable d'ailleurs sur toute la famille Picasso. Il explique très bien ses différentes femmes, ses différents enfants, les enjeux également d'une succession très compliquée. L'exposition est co-organisée, alors elle est faite par Didier Ottinger qui est un conservateur du Centre Pompidou. Ça m'a amusé hier soir parce que Didier était un de mes collaborateurs il y a pile 30 ans. Quand je faisais une revue qui s'appelait Noise, et donc 30 ans plus tard, j'étais très très heureuse de le voir avoir monté cette exposition fantastique, et il l'a faite en collaboration avec Diana Picasso, qui est une petite fille.
Comment peut-on expliquer cette espèce de vague de suicide, toutes ces mauvaises choses qui se sont passées au lendemain de la mort de Picasso? On a l'impression que le héros tutélaire ayant disparu, certains n'ont pas supporté en fait cette...
Picasso était quand même vampire de l'espace, de tout ce qui l'entourait. Donc vous imaginez le vide qu'il a pu laisser. C'est pas la tristesse qui a poussé les gens à ces malheurs. C'est, je pense, le manque de Picasso et la difficulté à ne pas se plonger dans la nostalgie. Je pense que c'est très très difficile de vivre sans une figure aussi tutélaire que lui.
Oui, c'était un grand vide d'un seul coup probablement. Et puis, oui. Et puis peut-être un soulagement que certains n'ont pas été capables de vivre. Mais enfin, ça nous entraînerait peut-être un peu loin, ça. Dans votre ouvrage, La Saga Mac, Mac, ça s'écrit M-A-E-G-H-T. Je le dis pour certains de nos auditeurs qui n'auraient pas compris de quoi nous parlons. Vous racontez, bien entendu, cette fondation de 1964. On est là, justement, à Saint-Paul-de-Vence. Vous parlez de votre grand-père, Aimé Mac, qui a un projet extraordinaire et très moderne pour 1964. Hein?
Oui, très moderne, et projet qui est issu en fait de la mort d'un enfant. Le deuxième fils de mes grands-parents est mort. Et là, ce sont les artistes qui ont vraiment poussé mes grands-parents à sortir de cette noirceur. Alors Picasso, c'est très intéressant parce qu'il a eu beaucoup d'enfants avec multiples femmes. Mais c'est pas le côté paternel qui l'intéresse. Beaucoup d'artistes, en revanche, n'ont pas d'enfants. Giacometti n'en a pas, Braque non plus, Léger non plus, Kandinsky, Bonnard. Beaucoup d'artistes n'ont pas d'enfants. Et Braque et Léger, qui eux n'avaient pas d'enfants également, sont venus voir mes grands-parents en disant « Bernard, votre fils est mort, vous avez touché à la vie, nous on ne touche pas à la vie, vous devez faire maintenant quelque chose d'immortel ». Et c'est dans cet esprit-là que mes grands-parents ont imaginé le lieu idéal pour les artistes, qui est devenu la Fondation Mag, très espagnole, puisque c'est Miró qui a amené l'architecte José Luis Sert, qui était aussi d'ailleurs un ami de Picasso. Alors certes, c'est un lien intéressant justement avec Picasso, car c'est lui qui a fait le pavillon espagnol en 37 à l'exposition universelle internationale à Paris, où a été présenté Guernica pour la première fois. Guernica a été fait pour le pavillon espagnol, et Papi a repris Sert, l'architecte, et Miró qui était également dans le pavillon espagnol de 37.
Il est difficile d'évoquer de telles œuvres sur un registre « j'aime, j'aime pas », mais si vous deviez emporter, si je puis dire, une œuvre de Picasso, est-ce que vous avez une prédilection pour quelque chose de particulier ?
Oui, sans doute les décors de parade, le ballet qu'il a fait.
Au moment de la Première Guerre mondiale.
Voilà, ça c'était vraiment important pour moi.
C'est un rideau de scène fascinant aussi.
J'avoue que le portrait, l'autoportrait dont vous parliez à l'instant, oui. De la fin, pour moi j'y vois un visage d'enfant, c'est-à-dire que d'un seul coup, Picasso, on le voit presque avec ce regard de panique et en même temps une naïveté d'enfant. J'irais peut-être voler celui-là au musée Picasso où il est exposé.
Maintenant que vous l'avez dit, ça va être un peu plus difficile. Merci beaucoup Yo-Yo Mack. Votre ouvrage La Saga Mack est publié chez Robert Laffont.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Fanny qui voudrait en savoir plus sur les origines de la guitare.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Fanny sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire qui voudrait connaître l'origine de la guitare.
Alors, les toutes premières origines sont probablement perses, pour autant qu'on le sache, et incontestablement arabes. La guitare espagnole et les premiers traités de musique qui concernent la guitare apparaissent au XVIe siècle. À l'époque, c'est une guitare à cinq cordes. Les Maures apportent les premières guitares en Europe, en Espagne, 5 ou 6 siècles plus tôt. D'ailleurs, guitare, ça vient de sitar, hein, ça vient du grec kithara, qui est passé par le kithara arabe intermédiaire, et puis ça a donné ensuite la guitare espagnole. On appelait aussi la grande sœur de cette guitare la guiterne, un instrument très populaire au XIVe siècle. Alors j'aurais beaucoup à vous dire sur l'expansion de l'instrument, son passage de l'Espagne au Portugal et même en France. Du temps de Louis XIV, il était fort à la mode en France, nous dit un dictionnaire de musique, mais la vogue qu'il eut fut de courte durée. Finalement, la guitare va renaître d'une certaine manière au XIXe siècle, notamment grâce à la guitare Zigane. La vraie guitare, ce qu'on appelle la guitare moderne, est apparue d'abord en Italie. On lui a ajouté des cordes. Enfin, je n'entre pas dans toute la technique. Sachez en tout cas que c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'un luthier espagnol qui s'appelait Antonio de Torres va donner naissance à l'instrument que vous connaissez aujourd'hui, qui n'a plus changé depuis. Alors, évidemment, il faudrait aussi parler de Andrés Segovia, qui est mort en 1987 et qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de cet instrument, lui donnant littéralement ses lettres de noblesse, avec un certain nombre d'autres, Narciso Yepes, Alexandre Lagoya, Manitas de Plata, j'en passe, et j'allais dire de meilleur, peut-être pas, mais peut-être en tout cas d'aussi bon. On aurait aimé un petit air de guitare, mais je crois que malheureusement nous n'avons pas le temps. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.